Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. Apple s'est un peu ouvert au droit à la réparation, mais le constructeur continue de faire des choix technologiques qui posent de sérieux problèmes aux réparateurs. On va en parler dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Christophe va revenir sur la semaine passée qui a été bien riche, elle aussi, les nouveaux Mac, les rumeurs, les mauvais chiffres des constructeurs de PC et même Apple TV+. On va passer tout ça au crible avant le week-end. En attendant, eh bien, nous sommes le vendredi 27 janvier, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Les réparateurs vont sans doute râler contre les Mac M2. La mémoire de stockage utilisée par Apple est en effet toute nouvelle et ça va demander du temps avant que les mémoires de remplacement soient disponibles à des prix pas exorbitants. En fait, pour les nouveaux MacBook Pro et Mac Mini, Apple utilise le même type de mémoire que pour l'iPhone 14. Ce sont des puces qui sont soudées sur la carte mère, mais des bricoleurs chevronnés parviennent à les remplacer et à les reprogrammer. Mais ça, c'est vrai pour les modèles de mémoire utilisés sur les Mac, équipés d'une puce T2 ou M1. Les nouveaux Mac, eh bien, ils viennent de sortir, et l'iPhone 14, il est encore tout jeune. Du coup, il n'existe pas encore de filière pour récupérer ce type de mémoire. Ça va venir. Mais pour le moment, bah, il n'est tout simplement pas possible du tout de remplacer le stockage de son Mac Mini ou de son MacBook Pro M2. Alors, faites le bon choix au moment de le commander. Sur Mac, l'application podcast n'est pas un chef-d'œuvre d'ergonomie. Ça sent bien qu'Apple a d'autres priorités malheureusement. Pourtant, ce serait pas mal que le constructeur jette un œil sous le capot du logiciel qui a des fuites de mémoire. Il suffit de lancer l'application pour qu'elle commence à dévorer la mémoire vive du Mac. Et même sans l'utiliser, podcast prend de plus en plus de RAM. Nicolas a testé chez lui et l'application a occupé jusqu'à 6 Go de mémoire. C'est beaucoup trop pour un logiciel qui ne fait rien. Alors, c'est pas tellement un problème quand on possède un Mac avec beaucoup de mémoire vive, mais sur les petites configurations, ça va vite devenir un souci. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de ne pas utiliser l'application et de ne même pas la lancer. Apple peut aussi mettre la main à la pâte et corriger le bug, franchement, ce serait le bienvenu. L'année 2022 ne restera pas comme un grand cru pour les ventes de smartphones. Il faut dire qu'elles ont explosé durant les deux années de la pandémie, alors forcément, les comparaisons avec 2021 sont un petit peu difficiles. Ce qui est à peu près sûr, c'est que tous les constructeurs ont morflé et Apple n'y a pas échappé. D'après IDC, sur les trois derniers mois de 2022, Apple a livré quasiment 15% d'iPhone en moins par rapport à l'an dernier. Ça représente un peu plus de 72 millions d'iPhone vendus sur le trimestre. C'est sûr que ça fait beaucoup de smartphones, mais c'est quand même moins qu'au quatrième trimestre 2021 où Apple avait livré 85 millions d'iPhone. Apple pourra se consoler en se comparant avec la concurrence qui fait encore pire. Chez Samsung, la baisse dans les livraisons de smartphones dépasse les 15%, le bonnet d'âne revenant à Xiaomi avec une chute de plus de 26%. Ces chiffres vont peut-être pousser Apple et les autres à s'interroger sur les prix de leurs smartphones, alors que le pouvoir d'achat est de plus en plus rikiki. On peut toujours rêver. La semaine se termine et j'ai envie de dire enfin, parce que ça va bien 5 minutes, mais le week-end c'est quand même pas mal. Mais juste avant de tout oublier, on va vous proposer avec Christophe un petit récap de ce qui s'est passé depuis lundi dans le petit monde d'Apple. Salut Christophe!
Salut Mickaël, salut tout le monde!
Alors la semaine, elle a été marquée par le lancement des ventes des nouveaux MacBook Pro et des Mac Mini. On est encore en plein dans nos tests à la rédac, mais ce qui se dégage, c'est que les puces M2, elles ont une sacrée patate.
Oui, elles ont une sacrée patate, mais malgré tout, et c'est pas pour, enfin, je veux pas ni divulgâcher les tests, ni me braquer avec, me mettre en porte-à-faux avec mes collègues, mais ça reste malgré tout un speed bump, un simple speed bump, donc ça va plus vite, il y a plus d'autonomie, circuler, il y a rien à voir. Ceci dit, il y a quand même, je trouve, deux enseignements qui sont intéressants. Le premier, si vous aviez décidé d'attendre pour passer sur Apple Silicon, c'est le bon moment, vous pouvez y aller, le matériel marche très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, les applications sont optimisées depuis belle lurette, donc on peut y aller maintenant les yeux fermés, ça sera une transition qui sera sans douleur. Il y a une deuxième bonne nouvelle, alors qui est un petit peu annexe à ça, et c'est assez bizarre de dire ça en ces temps d'inflation et de vie chère, mais c'est les prix. Je vais parler d'anciens modèles, mais par exemple, on trouvait cette semaine le Mac Mini sur le refurb, le Mac Mini M1, à 539 euros. C'est fou pour un Mac, hein, de se dire qu'on peut l'avoir à... pour le prix de la moitié d'un iPhone. Oui, voilà, et un Mac qui, à mon avis, ravira 80-90% des utilisateurs. C'est ça qui est beau, quoi. Ouais. Et dans le même genre, alors bon, même si le MacBook Air M2 est arrivé il y a quelques mois, on trouve de plus en plus régulièrement des MacBook Air M1, donc là encore une très belle machine, à moins de 800 euros. Donc finalement... Enfin, c'est chouette d'acheter finalement un Mac en 2023.
Alors, on va rester dans le Mac avec cette rumeur du Mac Pro qui n'aurait plus grand-chose d'évolutif. En fait, Apple garderait le design actuel de la grosse tour qu'on connaît, avec à l'intérieur une puce M2 Ultra, sans possibilité d'évolution à part pour le stockage. Ça serait une déception, ça, pour les utilisateurs qui ne veulent pas se contenter du Mac Studio.
Le Mac Pro, moi, enfin, alors on a publié énormément de papiers sur le Mac Pro, sur ce que pourrait être cette machine, comment Apple pourrait techniquement la réaliser. Je me demande s'il ne faut pas tuer cette machine pour la réinventer de fond en comble.
Ouais.
Parce que est-ce que les clients du Mac Pro donc de 2023 sont les mêmes que ceux de 2013 ou de 2003? Est-ce que c'est déjà le même type de clientèle? Est-ce qu'un développeur aujourd'hui a besoin d'un Mac Pro? Est-ce que des gens qui travaillent dans les univers créatifs ont besoin de Mac Pro? La plupart du temps, la réponse est négative.
Ouais.
Donc il y a la clientèle qui change. J'imagine à l'inverse que peut-être il y a des gens qui ont des travaux dans l'intelligence artificielle pour qui un Mac Pro ça peut être intéressant.
Ouais.
Dans certains domaines loués par Apple comme la réalité virtuelle et genre de choses, il y a sans doute un marché. Et ouais. Puis évidemment, sur du haut de gamme pour la vidéo, le Mac Pro est une machine tout indiquée.
Ouais.
Mais après, quelque part, s'il ne change pas de format, je me demande si ça ne serait pas un peu décevant. En tout cas, ça sera frustrant parce qu'on aura toujours en tête la vieille machine.
Mmh.
Et finalement, on aura une vieille machine, on aura l'idée de toujours du 4x4, mais sur lequel on ne peut rien faire.
Ouais.
Et j'y réfléchissais tout à l'heure et je me dis... Il y a deux machines qu'Apple a lancées dans les années 2010, deux Macs qui ont été des échecs retentissants. C'est le MacBook et le Mac Pro poubelle.
Oui.
Et finalement, avec est-ce que ce sont pas deux concepts qui, c'était à mon avis deux concepts qui étaient intéressants mais qui ont été lancés à un mauvais moment.
Oui.
C'est-à-dire que, bon, on ne va pas revenir sur le MacBook, hein, mais maintenant, tout le monde rêverait d'un MacBook avec une puce Apple Silicon et un modem 5G, ça serait super.
Avec un petit écran 12 pouces facile à emporter. Comme,
voilà, comme à génial, qui sera encore plus léger que celui de l'époque.
Ouais.
Et le Mac Pro poubelle, c'est très vendeur. Hein, je travaille au marketing d'Apple pendant mes... Pendant mes dimanches ou je ne sais que faire. C'est aussi une manière de dire, c'est une machine qui ressemblerait bien à l'Apple Silicon, puisque finalement, on peut plus changer grand chose. Finalement, ouais. autant déporter ce qui est intéressant à l'extérieur. Mmh. Donc voilà. Mais alors, je reste, je suis pas du tout client de cette machine, mais je suis vraiment très curieux de savoir ce qu'ils vont faire et je suis très curieux du succès de cette machine parce que bon, malgré tout, ça reste une machine qui est faite un petit peu pour la frime et pour la publicité quasiment que voilà. Ouais. C'est une démonstration technique, c'est l'histoire de montrer un savoir-faire, hein, c'est aussi ça. Hein.
Ouais. Alors, toujours au rayon des rumeurs, on se rapproche chaque jour du lancement du casque de réalité mixte, mais pour en profiter, il va falloir casquer, si j'ose dire, et se contenter de pas beaucoup d'autonomie.
Alors, d'ailleurs, il va falloir qu'on publie un papier sur le sujet, parce que j'ai deux, trois choses à dire. Il y a toujours le problème, c'est qu'on parle de rumeurs. Hein. Donc, voilà. Et on sait qu'Apple nous a déjà fait des petites blagues avec le prix de ces nouveautés. Hein. On se rappelle par exemple de l'iPad qu'on nous promettait à 1 000 $ et qu'on a vu arriver deux fois moins cher.
Mm. Bon, mais là, si c'est le cas du casque, il sera toujours très cher. Parce qu'on partirait de 3 000 $ à 1 500 $.
C'est ça. Et déjà, c'est un point qui m'inquiète un petit peu parce que finalement, à chaque fois qu'Apple a lancé un produit majeur, un nouveau produit, ces produits-là ont toujours été assez abordables.
Oui.
Un iPod, ça coûtait $300. Alors, c'était peut-être un petit peu cher à l'époque pour un lecteur MP3, mais c'était quelque chose d'abordable. bah, l'iPhone, c'était pas, enfin, c'était cher à la limite pour un téléphone, mais par rapport à tout ce que ça faisait, c'était relativement abordable. Voilà, l'Apple Watch, pareil, mais même un nouveau produit qui amène, comment dire, un petit peu ça, une nouvelle façon de faire comme les AirPods.
Oui.
Voilà, on était dans des, voilà. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on se retrouve avec un produit qui soit effectivement cher et qui soit lancé un petit peu comme l'Apple Watch, c'est-à-dire on lance un produit, on le balance, on n'a pas forcément une idée très claire de à quoi il va servir. On va dire oui, c'est super, la réalité augmentée, oui, on peut regarder des films, on peut faire du FaceTime, machin, et on voit ce que ça donne. Alors, ce qui peut éventuellement, alors pour une montre et pour un objet entre guillemets fashion à 400-500 dollars, ça va. Mais lorsqu'on parle d'un produit qui est vendu 3 000 dollars, voilà. Alors et pour moi, ça va être très significatif de ce qu'est Apple à l'époque de Tim Cook.
Oui.
Est-ce que c'est une société qui a encore une vision? Et c'est le casque va être très intéressant pour ça.
Ouais. Sur un registre complètement différent, les résultats du quatrième trimestre d'Apple seront connus donc la semaine prochaine, le 2 février. En attendant, on a eu ceux de Microsoft et ça confirme que l'industrie du PC est entrée dans le dur après le boom de la crise sanitaire.
Oui, là, il y a effectivement un petit contre-coup. Et il y aura certainement beaucoup de chiffres en rouge chez Apple. Alors, je parle de... Quand on va comparer les ventes par rapport à Noël un an auparavant, les ventes d'iPhone vont sans doute baisser, les ventes de Mac également, les ventes d'iPad, ça serait guère étonnant. Donc voilà, mais donc il y aura du rouge un peu partout chez Apple. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que si l'on en croit les chiffres d'IDC qui sont parus hier, c'est qu'Apple arrive quand même à gagner des parts de marché sur l'iPhone, sur le marché des smartphones. Quand on connaît les difficultés de production qu'ils ont eues, on peut se dire que voilà. Et c'est le point qui globalement est malgré tout très intéressant pour Apple, c'est que malgré cette période de turbulence, le Mac semble gagner des parts de marché, l'iPhone également.
Ouais.
Donc tout ne va pas si mal.
On va finir ce récap avec une mauvaise nouvelle pour Apple. Malgré les milliards de dollars investis dans Apple TV+, la moisson de nominations aux Oscars a été assez médiocre cette année. Je sais que c'est une info qui te tient à cœur.
Oui, c'est de la provocation, je vois bien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tim Cook démission, rend l'argent aux actionnaires, ferme TV+, et offre-nous 100 gigas de plus sur iCloud.
Ça serait pas mal ça, oui.
Non, mais alors, je crois que c'est dans les nominés de chez Apple TV+, il y a un court-métrage, c'est ça?
Ouais, il y a un court-métrage et il y a un meilleur second rôle aussi.
D'accord. Alors, en parlant de court-métrage, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, courez au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'est l'un des festivals cinéma les plus sympas qui soit. Et il y a beaucoup plus de contenu que sur Apple TV+. Ouais. Donc, allez-y.
Eh bien, voilà, c'est là-dessus qu'on termine cette semaine bien chargée. Merci et salut Christophe.
Merci, bon week-end à tous.
N'oubliez pas de regarder quelque chose sur Apple TV+ ce week-end, ça fera plaisir à Tim Cook. Et on se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode de Sortie de Veille.